Le service patrimoine de la mairie de Île-Dieu propose différentes visites, animations pour tous les âges et tous les goûts. Des monuments ouverts également à la visite du mois d'avril au mois de juin. Pauline Geoffry, guide conférencière au service patrimoine à la mairie de Île-Dieu. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça va bien Pauline?
Ça va.
Différentes visites, on vient de le dire à l'instant, des visites guidées. Saint-Sauveur au fil des rues, c'est quoi cette visite Pauline?
Alors la visite de Saint-Sauveur, c'est une visite classique qui existe depuis quelques années, qui permet de découvrir l'histoire et l'architecture de l'église, mais aussi de se promener dans les rues du village pour découvrir la vie à Saint-Sauveur durant l'Ancien Régime et au moment de la Révolution. Et c'est une visite qui dure à peu près 2 heures.
Tu parles notamment de quelques maisons.
On parle de maisons anciennes, alors on va parler de maisons qui ont une centaine d'années, dans ce qu'on appelle les maisons traditionnelles de l'Île-Dieu, et on va regarder quelques maisons encore plus anciennes du XVIIe siècle, qui ont une architecture différente en fait, vraiment différente de l'architecture traditionnelle. Elles ont des étages notamment.
Notamment la maison du gouverneur, non?
Alors c'est la maison du procureur fiscal, si on veut être complètement précis, mais on l'appelle souvent la maison du gouverneur.
En merci vrai, de cette précision, Pauline.
Oui, ça se voit que je le fais souvent.
Ça s'entend, oui.
Mais le gouverneur, lui, vivait à côté de l'église et le procureur fiscal, c'est un nouveau poste qui a été créé au XVIIe siècle, au moment où cette très belle maison à 2 étages a été construite.
Après Saint-Sauveur au fil des rues, la Meule et ses traditions orales également au mois d'avril.
Alors, la Meule et sa tradition orale, c'est pareil, c'est une visite qui dure 2 heures, voire un peu plus, parce que c'est une visite très sympa, on raconte des légendes, entre autres, et parfois on a envie d'en raconter encore plus. Et après, on s'aperçoit que la visite a duré 2h30.
Mais les gens sont pas pressés.
Bah écoutez, parfois ils sont pressés, donc j'accélère à la fin. Quand ils sont pas pressés, moi non plus, si on s'amuse bien.
Vous visitez le port de la Meule?
Alors, on commence la visite près de la chapelle, et ensuite on descend vers le port, on parle un petit peu de son histoire. J'emmène pas les gens voir les moindres détails du port parce qu'après il faut qu'on remonte jusqu'à la Roche-Offra et la visite se termine à la Roche-Offra, c'est pas une boucle, donc après les gens ils sont encore obligés de retourner là où ils ont garé leur vélo, donc voilà, le port après s'ils veulent y jeter à nouveau un coup d'œil plus approfondi, je les laisse faire par eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce port de la Meule?
Parce
que c'est un lieu emblématique tout de même de l'Île-Dieu.
Oui, il y a quelques questions au sujet du port, notamment est-ce que les bateaux sont bien protégés des tempêtes, depuis quand est-ce qu'il est utilisé? Le nom aussi, on pose souvent la question de l'origine du nom. Le problème, c'est qu'on ne sait pas.
C'est ce que j'ai à te poser comme question. Pourquoi le port de la Meule?
Eh bien, voilà, en fait, on a aucune idée. On a des hypothèses, mais
quoi,
ça reste des hypothèses. Eh bien, il faut savoir que le port de la Meule, dans le document du 15e siècle, qui s'appelle le Grand Routier de la Mer, le port s'appelle déjà comme ça, mais on trouve aussi sous le nom le port de la Meule, M-E-2-L-E. Alors, on ne sait pas. Comment ça devrait vraiment s'écrire? Il faut savoir que l'orthographe n'était pas fixée au 15e siècle, donc parfois on a des mots qui s'écrivent de deux façons différentes.
Est-ce que ce mystère sera résolu?
À mon avis, jamais.
Jamais, ok. Ça c'est dit.
Bon, parce que tout simplement, je pense que le texte qui nous permettrait de comprendre l'origine du nom n'existe pas ou n'existe plus. Une hypothèse, c'est que ça viendrait du mot moulin et qu'il y aurait eu un moulin à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'on ne retrouve aucune trace de ce moulin nulle part. Donc,
le mystère reste entier pour la Meule et sa tradition orale. Ces visites, c'est au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin, Pauline?
Exactement, on en a une en avril et après il y en a 2 en mai et 2 en juin.
Autre site emblématique de l'Île-Dieu, la citadelle, les mystères de la citadelle.
Alors, c'est une visite qui dure, pareil, à peu près 2 heures et qui va permettre vraiment d'approfondir l'histoire du fort de Pierre Levé, le fort de la Citadelle. La visite va commencer désormais dans la cour de la Citadelle, mais la guide amènera son petit groupe dans le bois pour commencer sa visite dans le bois et expliquer en fait ce qu'il y avait avant le fort et expliquer pourquoi on a décidé de construire le fort à cet endroit-là. Et ça va vraiment être l'occasion de se plonger dans l'histoire militaire de l'Île-Dieu parce que faudra reparler du vieux château pour comprendre pourquoi on a changé de méthode pour défendre l'Île-Dieu et pourquoi on a fait un fort, pourquoi il a été fait là, à quoi il sert, combien de temps il a servi. Bien sûr, elle va aussi parler des moyens mis en œuvre pour le construire et de ce à quoi il a servi.
Les mystères de la citadelle, quelques kilomètres plus loin, de Port-Breton à Port-Joinville.
C'est ça, de Port-Breton à Port-Joinville, un grand classique aussi de nos visites visite qu'on retrouve deux fois en avril, deux fois en mai, deux fois en juin. Et cette visite guidée qui dure encore une fois à peu près 2 heures, hein, comme les trois précédentes, elle commence près de la place Lapillier, elle se termine près de l'office de tourisme, et c'est vraiment l'occasion de parler des aménagements portuaires, de la pêche, du tourisme aussi un petit peu, et des conserveries.
Car Port-Joinville, avant, s'appelait Port-Breton.
Ça, c'est le nom d'origine. Alors, pour le coup, on sait pourquoi.
Alors, pourquoi, Pauline ?
Eh bien, il y avait beaucoup de navires bretons qui s'arrêtaient sur notre île au Moyen-Âge et à l'époque moderne. C'était des bateaux de commerce, hein, notamment, qui passaient dans la région, puisqu'on est sur une route maritime plutôt fréquentée. Ils se mettaient à l'abri, soit dans le port, qui était à l'époque totalement naturel avec des récifs de chaque côté. Soit, si c'était des gros bateaux, ils se mettaient sans doute en rade vers Kerchalon. En tout cas, ils s'arrêtaient par là et ils récupéraient de l'eau, de la nourriture, ils se mettaient à l'abri des tempêtes, etc. Et ce passage de nombreux bateaux bretons va inciter les gens à appeler le port Port Breton. C'est le premier nom qu'on connaît pour le port et il va le porter jusqu'en 1846 où il devient le port Joinville d'aujourd'hui. Mais entre-temps, pendant la Révolution, il a eu un autre nom, mais ça, vous le découvrirez en faisant la visite.
C'est quoi le nom pendant la Révolution ?
Ah, c'est rigolo. C'était le port de la sans-culotterie.
On en saura plus durant cette visite, donc, Pauline.
Voilà.
De Port-Breton à Port-Joinville, initiation à la pêche à pied en famille.
Alors là, on inaugure les ateliers nature, hein, les visites nature. Et là, on l'occupe.
Comme chaque année ?
Pour enfants. Oui, comme chaque année, la pêche à pied revient. C'est un grand succès chez nous.
Les gens aiment pêcher.
Les gens aiment bien découvrir les animaux de l'estran, parce que nous, on ne fait pas une vraie pêche à pied.
Vous n'avez pas pêché les cabous, quoi?
Maintenant, on ne les pêche plus, les cabous. On s'est aperçu qu'il y en avait moins.
Alors, il y en a moins, ça, moi. Tiens donc.
Non, c'est parce qu'on en a beaucoup pêché, je pense.
Et puis, peut-être un peu trop?
Oui, alors nous, on les pêche, tiens, on les relâche, hein, mais je ne sais pas s'ils sont toujours très bien vécu l'opération. Mais pour l'instant, nous, dans cet atelier, en fait, on va parler de tous les animaux de l'estran, y compris des cabous. Les cabous qui, en français, sont des gobies ou des blénies. Hein. C'est deux espèces de poissons différents, on en trouve les deux.
D'ailleurs, est-ce que ça se mange ? Je me suis posé la question.
On m'a posé la question aussi. Alors, moi, j'ai jamais mangé ça. Mais il paraît que...
Mais pourquoi pas, quoi ?
Mais il paraît que c'est pas bon parce qu'il y a plein d'arêtes. C'est un peu petit, hein, quand même. Mais non, nous, en fait, nos pêches à pied, c'est vraiment des pêches à pied pédagogiques. Le but du jeu, c'est de découvrir les animaux. Et on explique aussi un petit peu aux gens, s'ils veulent revenir ramasser des crevettes, c'est quoi les règles à respecter, puisqu'il y a une maille, évidemment, une taille limite de crevettes, des endroits et des règles de sécurité à respecter avec les marées.
Notamment déplacer les rochers, mais les remettre à la place.
Alors, quand on veut capturer des crabes, même si c'est juste pour les enfants, pour leur montrer un crabe et tout, il faut aller sous les petits rochers. Et effectivement, si on ne remet pas le rocher dans le bon sens, toutes les petites larves d'animaux qui se développent sous le rocher, sur le côté humide, elles meurent si elles sont exposées au soleil. Donc, il faut bien penser à remettre ces rochers dans le même sens où ils étaient avant qu'on cherche les crabes.
Ça, c'est pour l'initiation à la pêche en famille. Autre animation à découvrir, Algues et Industrie de la Soude à l'Île-Dieu.
Alors là, il s'agit d'une visite vraiment plutôt pour les adultes, même si des enfants à partir de l'âge de 8-9 ans peuvent suivre la visite. Il va y en avoir seulement 3 au printemps, c'est pendant des marées assez importantes qu'on peut faire ça. Donc 2 de mes collègues vont prendre en charge le groupe. La première va expliquer comment on fabriquait de la soude à partir des algues autrefois, donc essentiellement au 19e et au début du 20e siècle. Et ensuite, l'autre collègue va les prendre le petit groupe et les emmener vraiment sur l'estran et aller assez loin sur l'estran au niveau du caillou blanc pour voir différentes espèces d'algues et expliquer comment on peut les manger.
Il faut monter sur les rochers.
Il faut aller sur les rochers, oui.
Faire attention. Pour les personnes à mobilité réduite, c'est un petit peu galère, on peut dire ça comme ça.
Je crois que pour nos visites, les personnes à mobilité réduite, c'est de Port-Breton à Port-Joinville qui est la plus accessible, pour ne pas dire pratiquement la seule accessible.
C'est bien de le préciser. Une sortie ornithologique à vélo pour découvrir les oiseaux de l'Île-Dieu.
Exactement. Donc, Sandrine prend en charge le groupe au niveau du port.
Sandrine Desmarais.
Sandrine Desmarais, notre guide nature. Elle prend en charge le groupe près du Corsaire, hein, le bateau qui est sur le quai. Facile à reconnaître, c'est le seul qui est sur le quai. Et du coup, après, elle les emmène à vélo au niveau du port en lui-même pour découvrir les goélands et un petit peu plus loin, le long de plusieurs plages sur la côte norrois et pour observer ce qu'il y aura à observer, parce qu'il y a des jours où il y aura peut-être plein d'oiseaux, puis d'autres jours où il y en aura un petit peu moins. Et du coup, Sandrine, elle a plus d'une corde à son arc pour pouvoir expliquer les différentes espèces d'oiseaux.
On peut dire que c'est une passionnée.
Ah bah c'est une passionnée, elle fait partie
dans
de
l'idéologie,
la vidéo.
Ouais.
Elle a des connaissances sur les oiseaux en général et les espèces locales qui sont très intéressantes, très poussées, et elle explique ça très bien.
Sortie ornithologique à vélo, on vous rappelle, c'est au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin, Pauline. Des bêtes pas si bêtes, c'est quoi ?
Alors, c'est une autre visite nature, cette fois-ci, qui s'adresse plutôt aux familles, hein, comme la pêche à pied, et qui est aussi proposée par Sandrine Desmarais. Et donc, il s'agit de découvrir les insectes, cette fois-ci, hein, dans un champ près de l'ancienne bergerie de Kerpoirot, mais aussi dans le petit bois attenant.
Des bêtes pas si bêtes, c'est avec Sandrine au mois d'avril et au mois de mai. Des animations également, chasse au trésor à la Meule, Pauline. Il faut trouver un trésor.
Eh oui, il faut trouver un trésor.
Mais quel trésor ?
Ah ah, en plus ça a changé cette année.
Donc tu ne vas pas nous le donner forcément ?
Non.
Ah dommage,
je vais essayer. Que c'est.
Le principe c'est quoi ? C'est pour quelle tranche d'âge cette chasse au trésor à la Meule ?
Alors, cette chasse au trésor-là, c'est pas la plus facile. Hein. Elle est plutôt pour les enfants à partir de 8-9 ans, voire les ados. Mais c'est une animation qui se fait en famille. Donc, normalement, il faut qu'il y ait au moins un adulte avec les enfants. Enfin, pas normalement, il faut qu'il y ait au moins un adulte avec les enfants. Donc,
c'est obligatoire.
Si... Voilà, c'est obligatoire pour toutes nos visites. Hein. Et du coup, s'il y a des enfants un petit peu plus jeunes, ils peuvent faire avec l'aide de leurs grands frères et de leurs grandes sœurs. Donc, en fait, on remet... à la famille, un livret ou deux livrets, ça dépend ce qu'ils auront acheté à l'office de tourisme. Et ces livrets, dedans, vous avez plusieurs énigmes. Tac. Et ces énigmes vont leur faire un petit parcours, donc en l'occurrence dans la Meule, où ils vont aller d'énigme en énigme et écrire la bonne réponse sur leur petit carnet. Et à la fin, en utilisant les réponses à certaines questions, il faut qu'ils reconstituent un petit chemin qui leur permet de trouver l'endroit où est dissimulé le trésor.
Le trésor est à découvrir où ? Au port de la Meule ?
Je dirais pas où il est.
Ah, j'aurais tenté l'expérience, Pauline.
Donc ça dure à peu près 2 heures, là aussi. Un petit peu moins, ça dépend des familles.
C'est une chasse au trésor, ça fait aussi balade en famille.
C'est ça, c'est le but du jeu.
Autre chasse au trésor autour du cours du Moulin.
Alors celle-ci, elle est un petit peu plus facile. Les enfants à partir de 6-7 ans peuvent y participer. Encore une fois, s'il y a des enfants un peu plus jeunes, ils peuvent le faire avec leurs grands frères, leurs grandes sœurs et les parents qui vont les aider. Mais ils auront du mal sur certaines énigmes. D'ailleurs, même les enfants de 6-7 ans auront du mal sur certaines énigmes. Même moi, j'ai du mal sur une énigme. Parce que
laquelle ?
L'énigme de l'escargot.
Raconte-nous, Pauline.
C'est une énigme de mathématiques, de logique.
Ah là là. Mathématiques et logique, ouais, laisse tomber.
Voilà, c'est à peu près ça que j'ai dit à ma collègue qui a créé la visite. Et j'essayais, il a fallu qu'elle m'explique. Mais une fois que c'est expliqué, on dit ah ouais.
Ah ouais, c'est ça, en fait, c'est pas si bête.
Et donc, celle-ci, on la fera en avril, en mai, hein, d'ailleurs, la précédente aussi. Et elle s'adresse aux enfants, donc, comme je vous disais, un petit peu plus jeunes. Et c'est autour. Du fort de Pierre-Levé. Le point de départ, c'est le fort de Pierre-Levé et ça fait un petit tour dans le coin, jusque dans le petit village de Kerpierre-Borny.
Ça fait une belle balade également.
C'est une belle balade, oui, en famille là aussi.
Chasse au trésor autour du cours du Moulin. Pour réserver ces différentes visites et animations, c'est à l'office de tourisme, Pauline ?
Toutes les visites dont on vient de parler, les visites guidées sur les sites, sur les villages, les différentes animations en famille, c'est sur réservation à l'office de tourisme. Et même les deux animations en famille qui se font au Vieux-Château, la billetterie est toujours à l'office de tourisme. La seule billetterie qu'on fait sur place au Vieux-Château, c'est les visites guidées classiques.
On va en parler dans un court instant, mais pour l'instant, Escape Game à la Citadelle.
Alors, l'Escape Game, là, c'est une animation, mais pour les adultes, il faut avoir au moins 13 ans pour pouvoir résoudre les énigmes qui ne sont pas faciles du tout.
Ah, comme ça, moi, ça s'est dit.
Quand j'ai essayé de faire certaines énigmes avec mon collègue qui les a créées, j'espérais, j'étais un peu perdue. Mais bon, après, une fois qu'on vous explique, ça va.
Hein. Faut sortir en combien de temps ? Une heure ?
Il faut, réussir à résoudre toutes les énigmes et à trouver la sortie en une heure. Le thème cette année change. Ça va être sur les colonies de vacances. Donc, le but du jeu, c'est de s'imaginer que vous êtes dans les années 60, dans la peau d'un des ados qui est en colonie de vacances ici, à la Citadelle, puisque ça a servi de colonie de vacances. Hein. On y pense moins que les autres usages, mais ça existait, c'est un peu plus joyeux quand même. Et bah, vous avez fait une
bêtise. Les jeunes dormaient dans la Citadelle.
Ah oui, 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 il y avait des colonies de vacances de l'armée hein, qui étaient là, des enfants de militaires. Et donc voilà, là, on imagine que vous avez fait une bêtise, le surveillant vous a pris la main dans le sac et puis il faut réussir à vous enfuir. Il y a plusieurs énigmes à résoudre pour trouver finalement le moyen de quitter les lieux.
Escape Game à la Citadelle, c'est au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Cherche et trouve, Pauline, pour la suite.
Alors le cherche et trouve, c'est comme une petite chasse au trésor et qui s'adresse vraiment aux tout petits.
C'est vraiment pour le jeune public.
C'est pour les maternelles. À partir de 3 ans jusqu'à 7 ans, mais vraiment pour les petits. Donc là, vous avez pareil un livret, enfin c'est plus une double page finalement. Et les énigmes à résoudre, c'est plutôt des objets à trouver avec l'aide de ce petit livret. Donc évidemment, comme c'est pour des enfants qui ne savent pas lire et pas écrire, eh bien ça va être visuel. Et il faut que papa et maman leur expliquent de quoi ils retournent. La balade va leur prendre moins d'une heure. Hein. C'est entre 45 minutes et une heure, ça dépend un peu des enfants. Et ils vont du coup se promener dans le fort, ils vont se promener dans le bois de la citadelle. Et à la fin, eh bien, ils en ont dans un endroit du fort pour donner ce qu'ils auront trouvé et obtenir, pareil, un petit morceau de trésor s'ils ont réussi à découvrir le mot de passe.
Pour se chercher à trouver ce qui est des lieux cachés non ouverts au public qui sont ouverts durant cette visite.
Oui, on va ouvrir les douves.
Cherche et trouve à la citadelle. On part au vieux château. À l'attaque, partez à l'assaut du château, Pauline.
Alors, une de nos visites les plus
c'est
demandées.
C'est une visite phare.
Exactement.
On peut dire ça comme ça.
Oh, oui, vraiment. Elle n'est pas au phare, du coup, elle est au château, mais ça marche quand même. Donc, c'est une visite qui s'adresse au jeune public, encore une fois. Les enfants, je dirais, à partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans, 12 ans, ça dépend après de vos enfants. Je dirais que les enfants qui vont vraiment retirer un maximum d'informations de cette visite, parce qu'ils seront assez grands pour tout comprendre, et suffisamment jeune pour trouver ça super rigolo, c'est entre l'âge de 7 ans et jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais voilà, un peu plus vieux, un peu plus jeune, ça passe aussi. Donc il s'agit de se déguiser et d'imaginer que vous êtes les Anglais en train de prendre le vieux château pendant la guerre de 100 ans. Et après avoir écouté les explications du guide qui va vous montrer les différents éléments de défense de ce château.
Notamment les mâchicoulis.
Les mâchicoulis, entre autres, oui, hein, qui servaient à écraser les ennemis à coups de pierre. Eh bien,
merci, Pauline.
Il va falloir trouver le moyen en fait, de forcer l'entrée du château pour s'en emparer, parce qu'on est pressé, là. L'armée anglaise arrive et il faut qu'ils aient l'île-dieu pour avoir les réserves d'eau de l'île-dieu.
À l'attaque, partez à l'assaut du vieux château. On reste au château avec l'enquête au vieux château.
L'enquête au vieux château, c'est une visite qui s'adresse cette fois-ci aux plus âgés à partir de l'âge de 11 ans. En dessous, clairement, les énigmes sont trop difficiles. C'est un mélange entre un escape game, parce qu'il y a une heure pour résoudre les énigmes, et une chasse au trésor, parce que l'ordre des énigmes est imposé. Et c'est aussi une visite, parce qu'il y aura le guide qui sera là pour donner plein d'explications et qui va vraiment être toujours présent avec les jeunes et leurs familles, hein, parce que ça se fait aussi en famille, bien sûr, pour résoudre ces énigmes. Et vous allez voir le concours des adultes ne sera sans doute pas de trop sur certaines énigmes. Encore une fois, l'énigme de maths, moi, m'a fait poser problème.
Tu peux nous raconter qu'est-ce que cette énigme de maths cette enquête au château.
C'est sur, il y a plein de chiffres à deux ou trois, des nombres à deux ou trois chiffres, et il faut soit les additionner, soit les soustraire, et il faut pas en oublier.
Pauline, j'en ai déjà mal de tête.
Voilà, moi, il me faut une calculatrice pour faire ça.
Ça, c'est pour l'enquête au vieux château. On reste au vieux château avec des visites ouvertes pour le public également.
Alors là, on passe sur les visites guidées classiques du vieux château. Celles où, pour le coup, on fait la billetterie sur place. Attention, on n'a pas d'appareil à carte bleue. Ça ne
donc,
capte
du liquide,
pas. Voilà, du liquide.
C'est pour ces visites guidées.
Voilà, du liquide ou des chèques pour les visites guidées classiques. Donc, on va ouvrir le château le mardi, le jeudi et le samedi. Ces journées-là, il y aura 6 visites 11h, midi, 13h, 14h30, 15h30, 16h30. Et c'est forcément des visites guidées. Il n'y aura pas d'autres types de visites. Et le dimanche, on fera 3 visites guidées, l'après-midi uniquement, donc 14h30, 15h30, 16h30.
Il n'y a pas des visites libres pour le Vieux-Château ?
Pas au printemps, seulement en été.
Dernier monument à visiter, c'est le Grand Phare.
Le Grand Phare, eh bien, il sera ouvert le lundi et le vendredi matin de 10h30 à 13h. Il est ouvert également le dimanche matin, mais il ferme un petit peu plus tôt pour que le guide ait le temps d'aller au château, puisqu'il fera les deux sites dans la même journée. Donc c'est 10h30 à 12h30 le dimanche. Et entre les deux, le mercredi, là, le phare est ouvert toute la journée. Donc de 10h30 à 12h30 le matin, puis 14h-17h l'après-midi.
Le Grand Phare, il y a des explications sur ce Grand Phare.
Tout à fait. Les gens arrivent, prennent leur billet. S'il y a de la place en haut, ils peuvent monter tout de suite parce qu'on n'a que 15 places en haut du phare pour des questions de sécurité. Hein, ce n'est pas très très grand. Et s'il y a un petit peu plus de monde, on leur indiquera le temps d'attente. Et une fois qu'ils sont en haut, il y a un guide qui est en haut et qui explique ce que l'on voit depuis le haut du phare. Donc notamment...
On voit quoi d'ailleurs ?
Eh bien, on voit... presque tout le tour de l'île, parce qu'on ne voit pas la pointe des Corbeaux hein, au sud-est. On ne voit que jusqu'au sémaphore dans cette direction-là, ce qui est logique, parce que le sémaphore ou Saint-Sauveur, ils sont sur des collines, et ces collines qui font une trentaine de mètres, elles nous cachent la vue. Il faudrait, je pense, grimper sur la coupole du phare pour voir par-dessus, mais on ne fait pas ça pendant
c'est
la visite.
C'est un dernier rappel. Ça, c'est pour le Grand Phare, Pauline.
Et donc voilà, il y a des explications sur le... Sur les éléments de signalétique maritime et au Grand Phare, la billetterie se fait également sur place, mais là, normalement, nous avons un appareil à carte bleue.
La billetterie pour ces différents sites, on l'a compris, c'est soit à l'office de tourisme de l'île-dieu ou bien directement sur place pour le Vieux-Château et le Grand Phare, où retrouver tout le programme de ces visites, visites guidées, animations et monuments à visiter, Pauline ?
Alors, tout le programme des visites sera sur Internet, sur le site Internet de l'office de tourisme.
Île-dieu.fr.
Exactement. Vous aurez également une copie de notre brochure qui va arriver incessamment sous peu.
Elle sera téléchargeable ?
Elle sera téléchargeable. Je pense que la version numérique va déjà être mise en ligne prochainement. Et la billetterie de l'office sera programmée dans les jours à venir. Je ne sais pas exactement quand ils vont ouvrir les réservations, mais ce sera au cours du mois de mars. Juste, je reprécise bien, tout ce qui est visite guidée et animation sur les sites, y compris l'attaque du château et l'enquête au Vieux-Château, c'est billetterie à l'office exclusivement. Et le Vieux-Château et le Grand Phare, c'est l'inverse, c'est billetterie sur place exclusivement. Parce que si vous voulez acheter votre billet pour le Grand Phare à l'office, ils vous renverront chez nous, ils ne peuvent pas le vendre.
C'est important de le préciser, Pauline, pour ces visites du mois de mai, du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin. Est-ce que vous préparez déjà la saison estivale qui arrive à grands pas ?
L'ensemble du programme est déjà établi puisqu'on fait tout d'un coup, hein, du 1er avril jusqu'au 3 novembre, le programme est fait. Et bien sûr, tout est dans la brochure. Par contre, pour les affiches, on fait par période parce qu'on ne pourrait pas tout mettre sur l'affiche sinon.
On aura le temps d'en reparler de ces différentes visites durant la vraiment saison estivale. Pauline Geoffry, agent du patrimoine, guide conférencière au service patrimoine à la mairie de l'île-dieu, merci beaucoup.
Merci à vous, bonne fin de journée.